Monsieur Julien, je crois que tout d'abord, vous avez quelques précisions à apporter sur l'émission de la semaine dernière.
Oui, quelques précisions à la demande de certains auditeurs. La première d'abord, c'est au sujet du surnom de Jourdain, donné à la branche des Vicomtes, qui a pour premier ancêtre Guillaume, son fils Raymond et son petit-fils Adhémar. Raymond et Adhémar, tous les deux troubadours. Jourdain, ainsi que on peut le trouver dans les documents, est le prénom donné volontiers aux enfants des Vicomtes qui avaient participé aux croisades, soit à la première, soit aux suivantes, et que l'on baptisait avec de l'eau apportée du Jourdain en leur donnant ce surnom de Jourdain. La deuxième précision, elle me vient après l'audition faite par moi de la dernière émission, où j'ai négligé de préciser quel était ce grand prêt acheté aux vicomtes par les consuls, ou plutôt donné par les vicomtes, mais pour lequel les consuls avaient versé 1000 solques à Orsin. C'est le prêt commun, celui qui est aujourd'hui couvert de villas et qui est ceinturé par la promenade dite du Tour du Pré, qui suit le ruisseau, le canal de la Bonnette, arrive à la Vierge et puis reprend la route de Caylus. C'est un prêt, un domaine, un territoire qui sera très intégré dans la vie de la ville. Enfin, je voudrais préciser que des études ont été faites et publiées dans notre bulletin annuel en 1977 par le vice-président de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin, M. André Vignol, qui parle uniquement dans son article de Raymond Jourdain. En 1981, un article de l'abbé Passerat, secrétaire de la Société archéologique, a aussi été consacré à Saint-Antonin, et en particulier à Adhémar Jourdain, un autre troubadour, fils de Raymond. Et enfin, notre bulletin de 1982 présentera, quand il va paraître, j'espère bientôt, un article de M. André Vignol, toujours, sur Saint-Antonin et la croisade. Voilà pour les quelques précisions que j'avais à apporter.
Voilà, alors M. Julien, après nous avoir parlé la semaine dernière des vicomtes de Saint-Antonin, vous allez aujourd'hui nous parler de la naissance et du développement de la ville de Saint-Antonin.
Pas de la ville, il faut être plus précis, de la commune, parce que la ville, elle existait déjà depuis longtemps.
Alors il faut nous expliquer ce qu'est la commune et quelle est la différence entre la commune de l'époque et la commune actuelle.
Oui, elle est considérable. La commune aujourd'hui, pour nous, Saint-Antoninois, c'est un territoire très vaste, c'est là de 11 000 hectares, paraît-il, et qui couvre la campagne et la cité. Au Moyen-Âge, au XIIe siècle, une commune était une organisation politique. C'était, si vous voulez, une république urbaine. C'était une cité qui s'étant libérée du pouvoir des seigneurs, s'administrait elle-même, et c'est cette administration qu'on appelle la commune, ou la communauté.
Vous allez nous expliquer maintenant comment est née cette commune.
Voilà, et je l'ai dit la dernière fois, c'est à partir de la charte de coutume de 1140, document fondamental pour la vie de notre cité, parce qu'elle consacre la fin du règne des vicomtes, ou du moins le commencement de leur décadence, et la naissance de la commune, c'est-à-dire de la prise en compte par les habitants de la gestion de leur ville, totalement. Comment en est-on arrivé là? Je crois que tout le monde a pu le comprendre. Les vicomtes affaiblis ont dû céder le pouvoir à des bourgeois de la ville qui s'étaient enrichis en raison d'un développement considérable dû à la prospérité économique. Cette prospérité commence après ce fameux an 1000.
Alors, pourquoi l'an 1000?
Ah, l'an 1000, tu en as entendu parler, tout le monde en a entendu parler. L'an 1000, c'est l'année de la grande peur, de la terreur de l'an 1000. Par une interprétation un peu simpliste des Écritures saintes, les gens simples, et même les autres, attendaient en l'an 1000 la fin du monde, la catastrophe universelle, l'apocalypse, qui allait supprimer toute vie sur la terre et provoquer le jugement dernier. Alors l'an 1000 passe, et oh joie, soulagement, libération, la terre continue quand même de tourner et les hommes de vivre. Alors tu peux imaginer un peu ce qui se passe, hein, quand on sort d'un grand danger, on est prêt immédiatement à reprendre espoir. et naît alors une incroyable espérance et une ardeur de vivre sans précédent. On assiste alors, et on le comprend très bien, quand j'ai parlé de cette ardeur de vivre, à une véritable explosion démographique dans le monde chrétien de l'époque. Elle s'accompagne de défrichements considérables. Il faut songer que depuis les invasions barbares, la plus grande partie de la campagne entourant Saint-Antonin était redevenue inculte, couverte de bois et de friches. Cette campagne va être défrichée et de nombreux paysans vont créer là des fermes, des masages, des hameaux, dont la plupart, sinon tous, subsistent encore, s'accompagnant ici et là de petites chapelles et d'églises dont aujourd'hui le souvenir est tout à fait perdu, comme par exemple, sais-tu que près de chez toi, il y avait une église qui s'appelait Saint-Alose, qu'un peu plus haut, il y avait Saint-Martin de Lézignac, que sur le plateau d'Anglard se trouvait une église Saint-Jean d'Anglard, dont je me demande où elle pouvait être, à moins qu'elle ne soit peut-être à Veillervigne, je ne le sais pas. Donc voilà une campagne très peuplée, qui devient prospère, et par voie de conséquence, la ville elle-même se repeuple, décuple même sa population, et il se crée ici et là d'autres villes. Les hommes de la ville sont des artisans, ce sont des fabricants, ce sont des marchands, pour le travail desquels un progrès technique considérable a été effectué à cette époque-là. C'est la redécouverte du moulin à eau que l'on va pouvoir établir facilement sur les rivières qui bordent la ville.
Oui, c'est donc à cette époque-là que les hommes redécouvrent le moulin à eau. Vous pouvez nous en parler un peu de ces moulins? Ils existent encore?
Ah ben, ils existent encore, mais malheureusement, maintenant, ils ne sont plus en activité. Mais nous avons de nombreux témoignages dans les archives qui nous permettent d'assurer que le moulin du Gravier, le moulin de Fontalès, le moulin de Roumégousse, le moulin des Ondes, le moulin des Clostres, où est situé aujourd'hui le garage des pompiers, et le moulin du Bessarel, sans parler des moulins qui s'échelonnent sur le cours de la Bonnette qui seront construits plus tard, enfin tous ces moulins en ville existaient au début du XIIe siècle, et la plupart d'entre eux à partir de 1140. Ces moulins ont été la condition nécessaire au développement des industries. Bien sûr, ils servaient à faire la farine, mais au développement des industries qui vont faire la richesse de la ville.
Vous pouvez nous dire un peu pour quelle industrie ils étaient utilisés?
Eh bien, comme toutes les villes de cette époque-là, la première industrie, c'était l'industrie textile, rendu possible par la présence sur les pâturages des cosses de la campagne de l'élevage du mouton. Alors c'est l'industrie textile de la laine, mais pas seulement de la laine. Il y avait aussi la fabrication des toiles de chanvre qui donnera une occupation considérable aux tisserands de Saint-Antonin. Donc drap de laine, toile de chanvre. Ensuite, l'industrie des tanneries. Et on comprend pourquoi ces moulins, les canaux qui alimentent les moulins du Bessarel et le moulin des Clostres traversent Saint-Antonin, ils servaient aussi pour les tanneries, pour apporter l'eau aux tanneries. enfin, au point de vue plus particulier et agricole, c'est le safran qui est cultivé en grande quantité, qui était une épice très recherchée au Moyen-Âge, en même temps qu'une teinture pour les étoffes, et qui sera exportée dans tout le monde méditerranéen et dans l'Europe du Nord. Et aussi, ce que les gens savent, je crois, les prunes de Saint-Antonin, qui vont devenir une des richesses considérables, importantes du commerce saint-antoninois.
Oui, les prunes et le safran sont restés un commerce important jusqu'à il n'y a pas très très longtemps encore.
Pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, on peut dire que cela a constitué deux matières d'exportation qui ont fait la richesse de Saint-Antonin. Mais évidemment, toutes ces matières, on peut fabriquer des draps, on peut fabriquer des toiles, il faut exporter tout cela si on veut que la ville vive et s'enrichisse. Et il faut dire aussi qu'à cette époque-là, le commerce entre les pays d'Europe et du bassin méditerranéen a été grandement facilité par les croisades qui ont recréé le mouvement d'échange qu'on avait perdu depuis l'Empire romain. Et puis, et ce commerce à travers la Méditerranée a été aussi grandement facilité par la prise de la Sicile par les Normands, ce qui a débarrassé la mer Méditerranée des pirates, comme on dit, barbaresques.
Oui, alors ce commerce qui est en partie à l'origine de la prospérité de Saint-Antonin, vous pouvez nous en parler un peu ?
Ce commerce qui est en partie, il n'est pas en partie, il est totalement à l'origine de la prospérité de Saint-Antonin. Nous avions donc ici une classe qu'on appelait la classe des marchands, des gens qui vivaient du produit du travail des artisans, tisserands, tanneurs, filateurs, foulonniers, teinturiers, etc. Et ces marchands, nous le savons par des textes aussi, avaient des comptoirs sur les bords de la Méditerranée, à Perpignan, à Montpellier, à Gênes en Italie, à Venise. Ils en avaient aussi dans l'Europe du Nord, en Flandre. Et on voit naître là déjà, pour ceux qui s'intéressent aux problèmes économiques, l'implantation du capitalisme à Saint-Antonin, puisque pour faire du commerce, on ne peut pas aller porter sa toile là-haut. Bon, on a un correspondant. Les monnaies n'étaient pas les mêmes et il fallait faire un système de vente par correspondance, ce qui s'appelait alors faire des lettres de change. Et de là, la prospérité des changeurs. Il y avait à Saint-Antonin des changeurs, des banquiers. Et la place de la Jogario a conservé le nom de ce quartier où vivaient les juifs banquiers de Saint-Antoninois.
Et vous pouvez, on a du mal à s'imaginer maintenant comment pouvait se faire à cette époque-là le transport de toutes ces marchandises.
Oui, oui, parce que maintenant nous sommes complètement abrutis par les transports modernes, avions, chemin de fer, automobile, et il nous semble que comme il n'y avait pas ça au XIIe siècle, les échanges ne pouvaient pas avoir lieu. Les échanges se faisaient par bêtes de somme, par portage sur les bêtes de somme, les mules, les juments, les ânes. Et l'on avait ainsi des caravanes qui emportaient les marchandises vers le lieu de destination, par exemple, de Saint-Antonin. Elles allaient à la foire de Beaucaire, et de là, elles pouvaient aller à un port de la Méditerranée, choisi à l'avance. C'était une caravane d'ânes ou de mulets qui était protégée, parce que les marchands, il fallait qu'ils se trouvent des aides pour protéger leur caravane, pour des gens de service, des sortes de va-nu-pieds qui n'avaient pas le sou et qu'on payait pour ça et qui deviendront à l'occasion des bandits. Ça, ils ne s'en priveront pas. Ce qui fait qu'alors, avec ce commerce florissant, l'argent afflue dans la ville prospère, on va pouvoir construire et la ville va devenir, à partir de 1120-1130, ce qu'elle est aujourd'hui, pour quiconque a un peu d'imagination. Évidemment, il faudrait un autre talent que le mien pour évoquer la vie de la ville à ce moment-là et des milliers d'habitants qu'elle abrite. 6, 8, 10 000, en savons-nous quelque chose ? Nous n'avons pas de recensement pour le dire.
Oui, comment on peut l'estimer la ville de Saint-Antonin par rapport aux villes avoisinantes ?
Oui, alors ça c'est toujours par comparaison, par des documents pris dans les œuvres des historiens qui n'ont pas toujours porté à Saint-Antonin, il faut bien le dire, l'attention qu'elle mérite. Mais enfin, on peut dire que hormis Toulouse, Albi et Cahors, Albi et Cahors ayant environ 10 à 12 000 habitants, Toulouse entre 20 et 40 000, Saint-Antonin était la plus grande ville de la région, sinon, oui, je crois, la plus grande de la ville de la région, parce qu'il était plus peuplé que Millau, et aussi peuplé que Rodez. Villefranche, vous le savez, n'existait pas encore. Quant à Montauban, elle ne sera fondée qu'en 1146 par Alphonse Jourdain. Donc c'était une grande ville. Et d'ailleurs, il y a un phénomène géographique qui vous permet de reconnaître que c'était une grande ville. On appelait ville à cette époque-là, et plus tard encore, était qualifiée de ville, toute agglomération sur laquelle aboutissaient cinq voies de communication. On dirait aujourd'hui des axes routiers. Vous les trouvez facilement à Saint-Antonin. Chacun de ces axes arrivant à une porte des remparts. Prenez, en tournant autour de la ville, quand vous la regardez et de la promenade des Tilleuls, vous trouvez la première porte, c'est la porte des Carmes, où aboutissait la route venant, l'ancienne voie romaine dont j'avais parlé une fois, qui passait par Peyrègue, le Carandier, etc. Hein, et qui en même temps desservait la vallée de l'Aveyron. Première voie. Deuxième voie, sur la place des Tilleuls même, derrière vous arrive le chemin de Saint-Toux. C'était la voie de Caylus et du Causse de Limogne. Troisième voie, elle débouchait à la porte de la Condamine. C'était la route du Causse de Quercy, de Caussade, du Quercy celle-là. Hein. Quatrième et cinquième voie, qui débouchait au pont, à l'ancien guet romain, arrive là deux voies, qui se devinent encore aujourd'hui, celle qui monte par le sentier de la Vierge, et qui allait sur Peine, Bruniquel et Montauban, ça c'était la voie du Quercy-Bas et du Languedoc-Toulousain, et la cinquième enfin, c'est l'actuelle route de Marsac, qui par Saint-Michel-de-Vax arrivait à Albi, Gaillac, et desservait ce qu'on appelait le Haut-Languedoc. Voilà pourquoi Saint-Antonin, il n'y a aucune prétention à affirmer que c'était une ville. Et cette ville, alors, avait sa configuration d'aujourd'hui, avec ses nombreuses rues, ses ruelles, les mêmes à peu près à quelques détails près, bordées de maisons moins hautes qu'aujourd'hui, deux étages au plus, sans galetas. Ils seront ajoutés plus tard. Et alors, au rez-de-chaussée, chaque arcade qui abrite une boutique, un atelier, qu'on appelait l'Oujoubladous, où s'active, là, mais imaginez ça, prenez la rue droite, bordée d'arcades, la rue de la Pélisserie, bordée d'arcades, là vous trouvez des tisserands, des teinturiers, des peigneurs de laine, des peigneurs de laine et de chanvre, des cloutiers, des serruriers, des chaudronniers d'étain et de cuivre, des orfèvres. Et de nombreux notaires et hommes de loi. Tout cela travaille là dans les arcades, dans ces boutiques ouvertes sur la rue, cependant que les banquiers juifs, comme je l'ai dit, se réservent le quartier de la place de la Jouarre. Les rues sont encombrées, un peu plus qu'aujourd'hui, il faut le dire. Il y a des passants partout, du monde partout, des acheteurs, des crieurs de denrées à vendre, d'enfants, de bêtes, des ânes, des mules, tout ça chargé de marchandises. Tout cela grouille dans un tohu-bohu indescriptible, d'où surgissent évidemment les cris des marchands ambulants.
Le Conservatoire Occitan de Toulouse a retrouvé quelques-uns de ces cris de métier, qui se sont perpétués d'ailleurs jusqu'au début de ce siècle. Même si ces appels-là ne sont pas ceux qu'entendaient nos lointains ancêtres, on peut supposer qu'ils leur ressemblaient fort. C'est le payarote qui achète vieux chiffons et peaux de lapin. était le marchand d'escargots. C'est le vendeur de légumes.
Insalado, che la vedo qui, madame? Abruciate, agacciassi tendre, che è te. E a chi raffes, un paio rosa, che lo carro despulito, non ne mangio io. Vene, vene, crumbar, crumbar, che caglio?
C'est le marchand de lait et de fromage qui cède d'un fifre pour appeler le chaland.
Che volevo fromage? Vai fred?
Ajoutez à cet encombrement, à ces cris, à cette foule qui se bouscule, qui se croise, qui s'entrecroise, les innombrables chantiers qui se sont ouverts là, dans la ville, depuis le début du XIIe siècle. Sur la place actuelle de la Halle, les tailleurs de pierre, Los Peyriès, finissent le ravalement de la maison neuve Granolliette. Le musée actuel et des peintres sur des échafaudages peignent de couleurs vives les sculptures admirables de la galerie. Au monastère, ici, au milieu des échafaudages gigantesques, s'élèvent les murs de la nouvelle église abbatiale avec son très beau portail roman, ses chapiteaux ciselés dont par bonheur nous avons pu retrouver un exemplaire en 1976 et qui est exposé actuellement dans la galerie basse de la mairie. Dans toutes les rues de la haute ville principalement où habitent les riches, ce sont des chantiers partout pour l'édification de ces splendides façades romanes aux fenêtres géminées dont il ne subsiste plus aujourd'hui que quelques traces. La ville se fait ou se refait, la ville vit et les riches bourgeois vont peu à peu prendre en main la totalité de l'administration de la cité par la création du consulat. C'est en effet vers la fin du XIIe siècle qu'est créée cette institution qui sera officialisée par la deuxième charte de 1203 dont j'avais déjà parlé, charte confirmée par le comte de Toulouse. Voici l'article de cette charte qui institue les consuls à Saint-Antonin. Pardon pour les gens qui ne comprennent pas l'occitan. Establités en la ville de Saint-Antoni, que duce et promes leiales et fiseles d'Eistovilo, elecit al cusulat, et ad acuselia la communidad de la ville, debun jura, que a buno fe et a profeitablamen aculseliarou et permeirou a toute la communidad de la ville, et la ville ben et fiselment gouverno et cap de l'âme, et las costumos d'Eisto la ville gardu. Acuselio a bonu fe l'ubaglie de la bilo, dels quals cusuls abandits, nun deu es elezits al cusulat mas un duno maisu. L'iqual duce cusuls, nun estuin la administratiu del cusulat mas cant per un an, en la fi del qual an, eisi lis duces cusuls debun elezi autres, duces cusuls, li quals elicidus debun jura que bus e fisels e aprefeitables cusuls elicium e per iro e per maliso e per malvolenso alcun un refudu e per amor u per parentese alcun ad aquesto administratiu non elegiu mas aquels que conoixerou aprofeitables e aquels que auran estat cusul siu tengut de rendre compte als austres cusuls que nous clamenti serou que nouvellementi serou establits. Voilà, nous traduirons cet article considérable qui fonde la commune de Saint-Antonin quand nous parlerons de l'administration de la ville royale au XIIIe siècle. Désormais, la commune est instituée et le pouvoir passe aux bourgeois. Le temps des seigneurs est fini à Saint-Antonin en 1203 et non pas, comme le croient beaucoup de gens, en 1789. L'excès de richesse engendre, c'est bien connu en général, le laisser-aller et la corruption dans les milieux qui en bénéficient, qu'ils soient laïcs ou religieux. En particulier ici, les riches chanoines de la riche abbaye de Saint-Antonin ont sans aucun doute perdu de vue les enseignements de l'Évangile et se laissent tenter par le luxe et le lucre. Écoutez d'ailleurs ce qu'a écrit, mais là je le lirai en français, un troubadour peyre cardinal parlant des moines. « Je tremblerais, je crois, si j'avais femme, qu'un long vêtu la vienne voir souvent, car leurs jupons volent au même vent, et graisse au feu fait toujours vive flamme. Sur les nonnes, je ne fais bruit, telle est chaste qui porte fruit. C'est un miracle, et c'est la vérité. Les pères saints font les saints héritiers. » C'est un troubadour qui a écrit ça. Des hommes d'église, cependant, inquiets de cette déviation et convaincus du nécessaire retour aux sources, vont essayer de lutter contre ce laisser-aller. Par la réforme grégorienne, le pape Grégoire VII a tenté de réformer les mœurs du clergé. Au milieu du XIIe siècle, où nous sommes, apparaît Saint Bernard, l'abbé de Clairvaux, qui entreprend la réforme cistercienne des monastères. Il vient en 1146 et 1147 dans le comté de Toulouse, prêcher contre la nouvelle hérésie qui infeste le pays comme la lèpre. Il vient pour lutter contre elle. Il fonde les austères monastères cisterciens, comme le monastère qui subsiste toujours de Beaulieu, l'abbaye de Belloc, dans la vallée sauvage alors de la Seille. On construira plus tard un autre couvent cistercien dans la vallée de la Bonnette, réservé aux femmes celui-là. Ce sera le couvent de Costejean, que l'on connaît mieux sous le nom de Monge.
Oui, et M. Julien, nous avons à Saint-Onel la Castille-Saint-Bernard. Est-ce qu'il y a un rapport avec Saint-Bernard?
Eh bien, je le pense. Il n'est pas douteux que Saint-Bernard, étant resté dans la région près de 2 ans, à convertir les hérétiques ou à essayer d'empêcher que les gens ne tombent dans l'hérésie, et qui a décidé de fonder là cette abbaye de Belloc cistercienne et passer à Saint-Antonin, qui était une ville qui pouvait accueillir les plus grands, d'ailleurs déjà à Saint-Antonin à ce moment-là. Dans le milieu des artisans se développait aussi l'hérésie. Et je pense, avec quelques raisons de certitude, que le nom de Castille-Saint-Bernard, de Vallon de Saint-Bernard, dont tout le monde sait qu'il se trouve du côté du cirque de Nibouzou, ce nom-là a été donné en souvenir du passage du grand Saint-Bernard.
C'est aussi au Moyen-Âge que l'Église introduit le culte de la Vierge. Voici un Ave Maria, très dépouillé, très mystique, chanté par des voix juvéniles. Il est de Palestrina, musicien italien du XVIe siècle, postérieur donc à l'époque dont nous parlons. Mais cet anachronisme ne jurera pas, car on peut penser que les moniales de Costejean le chantaient dans la chapelle de leur couvent.
La forme cistercienne de Saint-Bernard aura peu d'influence dans l'immédiat sur les populations des villes qui n'ont nul contact avec ces nouveaux monastères isolés dans les bois. L'hérésie qui était venue combattre Saint-Bernard se développe au contraire dans les milieux artisans et commerçants à la faveur des discussions et des réflexions communes que favorise cette vie collective si caractéristique de l'époque. Un esprit général de contestation, propre d'ailleurs aux sociétés évoluées, remet en cause les principes généraux, la pratique religieuse officielle et les fondements même de la foi. Comment peut-on se réclamer du Dieu bon et du Christ rédempteur qui a vécu dans la pauvreté quand on mène une vie facile, consacrée à la satisfaction des appétits vulgaires? Cette contradiction n'est possible, aux yeux de certains, que parce que le monde est en proie au combat de deux puissances, le bien et le mal, Dieu et Satan, l'esprit et la matière. C'est le principe dualiste de cette nouvelle hérésie venue d'Iran au cours du siècle précédent, en passant par l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Italie du Nord. Voilà pourquoi les adeptes de cette hérésie seront nommés soit manichéens, soit bulgares, d'où nous vient d'ailleurs le mot très simple « bougre », soit cathares, soit patarins, et plus tard, au moment de la sinistre croisade, albigeois. Les cathares, comme le mot l'indique, sont des purs, convaincus que tout ce qui est corps et matière est œuvre de Satan, donc impur et source de souillure. Ils s'abstiennent de consommer tout aliment d'origine animale, le lait, les œufs, la viande, les escargots, les serpents, à l'exception du poisson. Et ils considèrent l'acte sexuel comme une souillure dont l'odeur pestilentielle monte jusqu'à Dieu et couvre les cieux. L'homme, par son travail, sa prière, sa chasteté, doit atteindre la pureté totale de l'esprit, seul capable de lui ouvrir le royaume céleste. Tous ne peuvent pas atteindre cette perfection. Il y aura donc des fidèles ordinaires, appelés croyants, qui suivront l'enseignement des parfaits, ce qu'on appelle les bons hommes, ces bons hommes vêtus de noir, à la longue barbe et aux longs cheveux, chargés de prêcher la parole de Dieu à travers l'évangile de Jean et le rituel cathare traduit en occitan. Ainsi se constitue une église avec fidèles et hiérarchie. On nommera même des évêques cathares. Mais le rite cathare n'a rien à voir avec la pompe catholique. Pas d'église, de locaux réservés au culte. On se réunit dans la maison d'un frère pour entendre les textes sacrés que va lire un bonhomme, un parfait, subir l'imposition des mains, effectuer la triple prosternation devant le parfait et solliciter de lui, au moment de la mort, le consolament, seul sacrement de l'Église cathare. Voilà, très sommairement résumé, quelques aspects de la nouvelle religion, avec tous les risques que comporte un résumé aussi succinct. Et l'on voudra bien me pardonner d'avoir omis des aspects fondamentaux de cette nouvelle religion. Ces hommes, en marge de la société d'alors, refusent toute autorité aux prêtres catholiques et au pape de Rome. Celui-ci, bien sûr, sentant le danger et devant la vanité des efforts entrepris pour réduire l'hérésie par les prédications exemplaires, remarquables même, de Saint Bernard, dont nous avons déjà parlé, et de Saint Dominique, devant la passivité des seigneurs occitans, qui ne font rien pour réprimer l'hérésie, et dont quelques-uns d'entre eux, ou du moins leurs femmes, y succombent, le pape, donc, va se décider à employer la manière forte, celle qui a toujours et de tout temps été utilisée contre les purs, les vrais croyants et les militants naïfs. En avril 1207, le comte de Toulouse, Raymond VI, subit sa première excommunication. Le 14 janvier 1208, le légat du pape, Pierre de Castelnau, représentant du pape dans le pays infesté d'hérésie, est assassiné. on en accusera Raymond VI. Alors est entreprise la terrible croisade dite des Albigeois, dont notre ville aura à subir la violence et qui fera assure-t-on en Occitanie 1 million de victimes, un véritable génocide.
Monsieur Julien, la semaine prochaine, vous nous expliquerez comment Saint-Antonin a subi la croisade des Albigeois et est devenu ville royale. Madame Julien, Monsieur Julien, je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Au revoir Patrick.
Au revoir Patrick, en espérant que je n'aurai pas ennuyé les auditeurs avec mes digressions philosophico-religieuses.
Je ne pense pas.
Au revoir.